Voici les deux textes liturgiques pour ce 22e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de Saint Paul aux Philippiens. Mes frères, nous avons la confiance dans le Seigneur Jésus que celui qui a commencé en vous l'œuvre bonne par excellence en continuera l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est bien juste que j'ai ce sentiment pour vous tous, puisque j'ai conscience dans mon cœur que vous êtes tous associés à ma joie et dans mes chaînes et dans ma défense et dans l'affermissement de l'Évangile. Dieu m'est témoin en effet de l'ardeur de charité dont je brûle pour vous dans les entrailles du Christ Jésus. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre charité aille toujours vraiment dans la vraie science et en toute espèce de droit jugement, pour goûter ce qui doit obtenir votre préférence, afin d'être pur et sans reproche au jour du Christ, comblé par lui, le Christ Jésus, du fruit de justice pour la gloire et la louange de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Suite de Saint Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, s'étant retirés, formèrent le dessein de surprendre Jésus dans ses paroles. Ils envoyèrent donc leurs disciples avec les Hérodiens, lui dire « Maître, nous savons que vous êtes vrai, que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité, sans considération de quoi que ce soit, parce que vous ne regardez pas au personnage des hommes. Dites-nous donc le jugement que vous portez sur ceci. Est-il permis de donner le sens à César, oui ou non? » Mais Jésus, qui voyait leur malice, dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la pièce exigée pour le sens. » Ils lui présentèrent un denier. « De qui est cette image, cette inscription ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent de César. « Rendez donc à César ce qui est à César, leur dit-il alors, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Veuillez vous asseoir. Alors, comme tous les mercredis, nous aurons le cours de doctrine. Ce mercredi, attention, j'ai changé les horaires pour des raisons pratiques. Donc, le cours aura lieu ici. Ça donne ici à 7h, 19h. Et sera donc en ligne très vite, en vidéo et en audio, pour que les gens de l'extérieur puissent assister à suivre ce cours. J'insiste sur l'importance de ce cours, non pas parce que c'est moi, mais tout simplement à cause du sujet. Les actes du magistère, c'est-à-dire l'enseignement magistériel de l'Église, quelque chose de fondamental à bien connaître. Et la plupart des fidèles ne connaissent pas ces choses-là. Donc je suis très heureux, je félicite tous ceux qui sur Internet ont le courage de suivre avec régularité ce cours, puisque maintenant nous avons dépassé 1500 connexions pour la première conférence, il y en a déjà eu 6. Alors espérons que ça va continuer, donc que nos fidèles, tant ceux qui viennent à la messe ici que ceux qui écoutent sur Internet, donc puissent faire un effort de continuer avec régularité l'assistance à ces cours. N'oubliez pas que jusqu'au 9... J'ai dit le 8 par erreur, c'est jusqu'au 9 novembre. Il y a une indulgence plénière que vous pouvez gagner pour les âmes du purgatoire dans les cimetières. Vous allez dans un cimetière, priez quelques prières pour les âmes des défunts, par exemple une dizaine de chapelets, et vous pouvez gagner à chaque fois pour eux une indulgence plénière. C'est-à-dire que vous pouvez relâcher une âme du purgatoire de ses misères. Alors, n'oubliez pas de faire ça, c'est important. J'insiste aussi sur les retraites. J'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté ces derniers temps pour me demander des renseignements sur les retraites. N'oubliez pas que je ne peux prendre que 6 personnes par retraite, pas plus. Pour moi, pour le moment, puisque je n'ai que 6 chambres dans le gîte que je loue, tout proche d'ici. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, parce que sinon je ne pourrais pas vous prendre. Je prends les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent, évidemment. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire pour les retraites. Autre bonne nouvelle, donc la nouvelle chapelle arrive. Alors, il y aura 8 mètres sous plafond, donc il n'y aura plus de problème de taille pour différentes places à la chapelle. Vous pouvez faire 3 mètres de haut, il n'y aura pas de problème, vous ne cacherez pas la caméra. Alors cette chapelle arrive, donc on a déjà reçu aujourd'hui la porte. Et il y a des belles choses, comme quoi le bon Dieu travaille. Je vous donne un exemple parce que c'est toujours ça très beau. Donc c'est une porte qui était vendue sur, très belle porte en chêne massif, qui était vendue sur Internet. La personne que j'avais chargée de négocier cet achat Préciser, personne ne lui a demandé, mais pourquoi vous voulez faire une porte pareille? Vous ne pouvez pas la mettre sur une maison simple. Et c'est pour une chapelle. Nous voulons faire une chapelle. Alors à ce moment-là, je vous diminue le prix de 1000 euros. Et d'entrée, le monsieur a diminué le prix de 1000 euros. Ça lui sera compté. Comme quoi, il y a encore un peu d'espoir dans la civilisation moderne. Voilà. Donc, nous allons cette semaine avoir le devis pour la chape et les choses commencent à se mettre en place. J'espère qu'on aura pouvoir utiliser la chapelle pour la messe de Noël à la fin de l'année. Donc, priez pour que tout se passe selon la volonté du bon Dieu. Cette semaine, messe tous les jours à 10 h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui touche un sujet assez délicat. J'ai remarqué que cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, surtout quand elle est accompagnée d'une autre phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, mon royaume n'est pas de ce monde, est interprétée immédiatement par tous les modernistes de tout poil, toujours de la même façon. Vous voyez, monsieur l'abbé, notre Seigneur Jésus-Christ le dit expressément, il faut séparer les choses de l'État et les choses de l'Église. Donc, séparation entre l'Église et l'État. Or, vous, vous parlez toujours de l'union entre l'Église et l'État, donc vous avez tort. La réponse est toute simple, mes bien chers frères. Il faut faire très attention, c'est un conseil des pères de l'Église, de ne jamais tirer une phrase de l'Écriture sainte hors de son contexte. Il faut prendre tous les évangiles pour analyser ces choses-là. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas voulu que son règne soit effectif dans la société ici-bas, il n'aurait jamais dit dans Notre Père, quand il a enseigné aux apôtres à prier, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre nom soit sanctifié au ciel et sur la terre, je vous l'ai déjà expliqué. Que votre règne arrive au ciel et sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ veut régner ici-bas. C'est pour cela qu'il a institué une église. Quel est le premier but de l'église catholique? Aider les gens à monter au ciel. Quel est le premier but de l'église catholique? Prêcher, aller, baptiser, a-t-il dit notre Seigneur Jésus-Christ. Avec je dirais, une menace énorme qui est pour chacun d'entre nous. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc l'obligation d'avoir un esprit apostolique, mais c'est pour cela que les apôtres ont toujours, toujours, depuis le début, l'Église a suivi l'exemple des apôtres, prêché le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. J'insiste lourdement pour que ça rentre dans les esprits. Notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi de la société et c'est ça, ce point-là surtout, qui est nié catégoriquement par Vatican II. Ils ne veulent plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont nous dire, les prêtres modernes vont nous dire pratiquement systématiquement, ça c'est pour le Moyen Âge, c'est fini. Aujourd'hui, il faut la séparation entre l'Église et l'État. On ne peut plus prêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cardinal Ratzinger lui-même, au moment où il n'était pas encore celui qu'on appelle Benoît XVI, pardon, merci. Benoît XVI, il était encore simplement préfet de la Congrégation de la foi, l'a dit expressément à Monseigneur Lefebvre, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut plus être prêché aujourd'hui. Et si le pape Pie XI avait à réécrire sa grande encyclique Quanta Cura, il ne le ferait plus aujourd'hui. Donc il ne se cache même plus. Donc si on enlève le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, si on prétend que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'Église et l'État doivent être séparés et que l'État n'a plus à s'occuper de l'atmosphère générale de la société pour que les gens puissent y vivre en état de grâce, tout simplement. Je vous ai déjà expliqué ces choses-là, je m'excuse de réexpliquer les choses, il faut que ça rentre. L'État a un rôle là-dedans. L'État a un rôle pour aider les citoyens à pouvoir, selon l'expression du pape Léon XIII, se mouvoir dans le bien. Comment voulez-vous qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui puisse se mouvoir dans le bien dans la société qui est la nôtre? Pourquoi? Parce que justement, on a mis le bon Dieu dehors. Et comment on a mis le bon Dieu dehors? Ça, c'est tout le travail de la Révolution. 1789, préparé par la franc-maçonnerie, puis 1717 et préparé par le protestantisme 1517 et la Renaissance au XIVe siècle, c'était quoi? Éliminer le bon Dieu par le laïcisme. Et donc, il faut bien comprendre cette phrase, même si notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, il explique qu'il y a une dépendance, il y a deux états différents, deux choses différentes, l'Église et l'État. Il ne faut peut-être pas tout mélanger. Il y a deux choses différentes, deux entités différentes, l'Église et l'État. Et il y a une relation de dépendance entre ces deux choses. Ça, c'est absolument fondamental, fondamental à comprendre. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, mon royaume n'est pas de ce monde, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, l'autorité que j'ai ne vient pas d'ici-bas, de ce monde. Cette autorité vient de Dieu, de mon Père, de Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus-Christ a un droit de regard et veut régner sur ce monde. Si on dit que l'Église et l'État doivent être séparés, qu'il faut un laïcisme partout dans le monde entier, eh bien à ce moment-là, les gens vont se damner, tout simplement, c'est aussi simple que cela. Monseigneur Lefebvre nous a, je m'excuse de redonner cet exemple que vous connaissez déjà sans doute, Monseigneur Lefebvre nous avait donné cet exemple, il connaissait très bien aussi l'Amérique latine, Monseigneur Lefebvre nous a donné cet exemple en Colombie, où c'est le Saint-Siège qui a fait qui a constamment parlé les nonces apostoliques, insisté sur le gouvernement de Colombie pour qu'il n'y ait plus la mention de l'Église catholique en émettant l'unique religion d'État. Ils ont fait la même chose au Chili. Et finalement, Monseigneur Lefebvre nous a dit, le Saint-Siège a tellement insisté auprès du gouvernement colombien pour que, c'est au temps de Paul VI, ou même après, le Saint-Siège a tellement insisté auprès du gouvernement que finalement ils ont fini par céder. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué le jour où malheureusement on a changé la constitution qui disait expressément en Colombie que l'Église catholique était l'unique vraie religion reconnue comme par l'État. Monseigneur Lefebvre nous a dit qu'il y a eu trois discours. Le discours du président de la République de Colombie qui a dit expressément « Je regrette profondément d'être obligé d'en arriver là, mais malheureusement, le Saint-Siège a tellement insisté que je suis obligé de passer par là. Mais sachez que dans notre cœur de Colombien, notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours là. » Monseigneur Lefebvre nous a dit, mais c'était à pleurer de voir la beauté de ce discours. Ensuite, il y a eu le discours de l'évêque. L'évêque qui s'est réjoui en disant, mais c'est l'esprit de Vatican II, c'est l'esprit de 1789, c'est l'esprit de la Révolution française. Deo gratias, nous sommes heureux qu'il y ait enfin cette séparation entre l'Église et l'État. Et ils ont fait la même chose, mes bien chers amis, au Chili. En Argentine, il y avait un article de la Constitution qui disait expressément « Le président de la République d'Argentine ne peut pas ne pas être catholique. » Qui a fait sauter tout ça? Le Vatican. C'est ahurissant. Vous voyez, cela nous aide à comprendre l'importance de ce dogme de foi, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit y avoir une union entre l'Église et l'État, et l'Église enseigne comme le corps et l'âme sont unis. Est-ce que le corps est différent de l'âme? Oui. Mais dans une entité humaine, dans une nature humaine, il y a un corps et une âme. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la forme du corps. Donc on a besoin de choses corporelles, on a besoin de choses spirituelles, on a besoin de nourriture corporelle et de nourriture spirituelle. Et c'est l'âme qui doit diriger le corps. Malheur à nous si c'est le corps qui dirige l'âme. Et l'Église va même plus loin que ça, ça semble aussi étonnant. Il y a beaucoup de gens ont du mal à comprendre. L'Église va jusqu'à enseigner, attention, qu'il n'y a que deux sociétés parfaites. Et quand je pose cette question à fidèles, en général, ils ne savent pas me répondre. Quelles sont les deux sociétés parfaites? L'Église et l'État. La famille n'est pas une société parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite? Une société parfaite, c'est une société qui peut atteindre sa fin par ses propres moyens. Quelle est la fin de la société parfaite qu'est l'État? Le bien commun temporel. Quelle est la fin de la société parfaite qu'est l'Église? Le bien commun spirituel. En soi, j'ai bien en soi, L'Église peut atteindre son bien commun spirituel sans l'État. On le voit très bien dans les périodes de persécution, par exemple. En soi, l'État peut atteindre sa fin, le bien commun temporel, sans l'Église. Mais il faut une union entre les deux. Il faut un garde-fou à cause du péché originel. Et ce garde-fou, c'est justement l'Église qui va intervenir pour protéger l'État et empêcher les débordements. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Église doit s'occuper de tout. On avait parfois des problèmes dans en Espagne, entre autres. À un certain moment, j'étais en Espagne pendant assez longtemps, comme prêtre. Et là-bas, on avait parfois des gens qui exagéraient ces choses dans l'autre sens. Par exemple, les gens venaient voir en me disant, monsieur l'abbé, est-ce qu'il faut qu'on change la voiture? Écoutez, moi, je ne suis pas mécanicien. Je suis prêtre. Alors, il ne faut pas venir me demander s'il faut changer la voiture. Vous allez voir ça avec votre banquier et avec votre mécanicien. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on doit avoir encore un enfant? Mais attendez, c'est vous qui décidez ça. Je rappelle simplement les lois divines sur le sujet. Je vous rappelle les textes de Pie XI et les textes de Pie XII sur le contrôle naturel de l'essence. Dans quel cas très spécifique vous avez le droit d'utiliser. Mais c'est à vous de décider, c'est pas moi, j'ai pas le droit de décider pour vous. Vous voyez, donc, union entre l'Église et l'État, mais l'Église doit en quelque sorte superviser l'État comme l'âme supervise le corps. Donc si l'État se retrouve sans la protection de l'Église, à ce moment-là tout s'écroule. On le voit très bien, par exemple, dans certaines périodes où il y a eu des grandes hérésies qui se sont développées, par exemple, par celle d'hérésie cathare au XIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle même, et bien l'hérésie, surtout XIIe et XIIIe siècle, dans la région où nous sommes, l'hérésie cathare, c'est ce qu'on appelle l'hérésie des albigeois, on est en plein dans la région, en Occitanie, et bien c'est l'Église qui a finalement, après avoir été patient d'une patience d'archange pendant plus de 50 ans, c'est l'Église catholique qui a demandé au roi, donc Saint-Louis, pas n'importe qui, justement de commencer une croisade pour empêcher la diffusion de ces idées épouvantables. Quand vous pensez à ce qu'enseignaient les cathares, c'est ahurissant. Les cathares enseignaient qu'il y avait deux dieux. Le dieu de la matière, qui était mauvais, et le dieu du bien. Donc deux dieux qui se font la guerre. Et donc, puisqu'il fallait lutter contre la matière, donc l'avortement devenait quelque chose de raisonnable et d'acceptable. Donc le divorce, le suicide devenait quelque chose de raisonnable. Vous voyez, alors on en arrive à des aberrations qui sont en train de détruire complètement l'âme de la société. Et dans ce cas-là, il est évident que l'État doit intervenir. Et le rôle de l'Église, c'est justement de guider, justement, pour que tout cela puisse se faire selon la volonté de bon Dieu et pour protéger les âmes. Comment voulez-vous que les âmes se sauvent sans cela? Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non seulement l'État ne cherche plus à protéger l'Église, mais l'État persécute l'Église. Alors la famille, au contraire, attention, la famille n'est pas société parfaite. L'État, société parfaite dans son domaine, l'Église, société parfaite dans son domaine, mais pas la famille. Pourquoi? Parce que la famille a besoin de l'État et de l'Église pour pouvoir atteindre sa fin. Donc la famille n'est pas une société parfaite. Alors faites attention, parce que j'entends souvent cette erreur des gens qui me disent, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire que l'État est société parfaite. Regardez, l'État actuel, c'est une abomination. Attention, le principe reste là. C'est comme quand les gens nous disent, ça c'est un peu vrai, monsieur l'abbé, vous prêchez l'union de l'Église et de l'État, mais qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui s'il y avait l'union de l'Église et de l'État? C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une situation tout à fait anormale, parce que les gens d'Église ont, hélas, pour l'immense majorité d'entre eux, perdu la foi, et l'État est complètement laïque. Mais le principe demeure. Le principe demeure. Vous voyez, je crois que c'est absolument fondamental de bien comprendre ces choses-là, parce que c'est la fondation même du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, s'il y a une séparation entre l'Église et l'État, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible. Peut-être qu'une comparaison peut vous aider à comprendre les choses. C'est la comparaison dans le mariage. Dans le mariage, il y a un époux et une épouse. Est-ce que l'époux et l'épouse sont identiques? Non. Est-ce que l'époux et l'épouse doivent être mis exactement au même niveau? Non, parce que les rôles sont différents. L'époux amène quelque chose que l'épouse ne peut pas amener, et l'épouse amène quelque chose que l'époux ne peut pas amener. L'époux amène si vous voulez, la tête, l'épouse amène le cœur. Il faut les deux. Mais il faut les deux, ce qui ne veut pas dire que il y aura une bagarre entre les deux, au contraire. Il faut que l'épouse et l'époux travaillent ensemble, mais travaillent ensemble dans une situation de dépendance. Malheur à l'époux qui va se mêler constamment du domaine de son épouse. Et malheur à l'épouse qui va se mêler constamment du domaine de son époux. Il faut une union entre les deux. Cependant, il y a une tête. Dieu a voulu que le chef de famille soit l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme a le droit d'écraser son épouse, bien sûr que non. Saint Thomas d'Aquin qui fait remarquer que lorsque Dieu a créé la première femme, Ève, il l'a créée à partir d'une côte d'Adam. Il n'a pas prié, nous dit Saint Thomas, à partir de son pied, parce qu'il aurait peut-être eu tendance à écraser sa femme. Il n'a pas créé à partir du cerveau, il a créé à partir d'une côte qui est proche du cœur. Parce que l'époux doit chérir son épouse comme notre Seigneur Jésus-Christ a chéri son Église. Eh bien, chers frères, comme toutes ces choses sont absolument fondamentales. Et si on détruit ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, c'est le désordre le plus complet qui s'instaure. Et comme quand vous enlevez notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait un vide, c'est quelqu'un qui va prendre la place du vide. Et ce vide va être immédiatement rempli par le démon. Il faut bien comprendre ce qui se passe et ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, le règne social a été supprimé. Et qui a la responsabilité de cette pagaille actuelle? On a tendance à dire, mais c'est le gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement. Celui qui a le plus sa responsabilité, c'est justement l'Église officielle qui a arrêté de prêcher ces choses-là. Et qui dit qu'elle n'a plus à diriger, à influencer l'État dans le bon sens, parce que l'Église et l'État sont complètement distincts, complètement séparés. Et tout s'écroule à cause de cela. Relisez, si vous ne l'avez pas fait, relisez l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, qui explique très bien ces choses-là. Dans les textes du magistère, il y a le texte magnifique de Pie IX, qu'on va étudier en long, en large et en travers quand j'aurai terminé l'introduction que je fais actuellement. Dans le texte de Pie IX, Quanta Kura, il est dit expressément, la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité. Et la proposition 55 du syllabus, qui suit le Quanta Kura, dit expressément, condamne ceux qui disent que l'Église et l'État doivent être séparés. Et ces textes sont infaillibles, mes bien chers frères. Ils étaient valables en 1864, sont valables aujourd'hui, seront encore valables dans 2000 ans. L'Église ne peut pas changer ces choses-là, c'est absolument impossible. D'où la nécessité, mes bien chers frères, de se mettre toutes ces choses dans notre cœur. Et dans notre intelligence surtout. Et les gens modernes vont vous dire, oui, monsieur l'abbé, c'est vrai ce que vous dites, en principe, c'est vrai. Mais vous comprenez, il faut accepter toutes ces choses avec des nuances. Aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge et on voit les résultats, justement. Au Moyen Âge, les gens pouvaient se sauver facilement, relativement facilement. Aujourd'hui, comment veux-tu qu'ils se sauvent? Vous voyez donc la nécessité de revenir impérativement à ces choses-là. Sinon, nous mourrons, tout simplement. C'est aussi simple que ça, et je pense que nous devons faire notre examen de conscience. Ce n'est pas pour rien que ça m'a frappé hier. Aujourd'hui, le prêtre a commencé dans son bréviaire, l'office de matine, l'office de la nuit. Il a commencé le livre de Daniel, un livre magnifique de l'Ancien Testament. Je vous conseille beaucoup, si vous ne connaissez pas le livre de Daniel, lisez le livre de Daniel, c'est une merveille, l'Ancien Testament. Et dans le livre de Daniel, il y a l'histoire de trois jeunes qui avaient été choisis par les Chaldéens pour, après l'invasion de Jérusalem, la déportation du peuple hébreu à Babylone. Ça avait été choisi par les Chaldéens pour. Fait choisir trois jeunes hommes pour leur donner une excellente éducation et qui est des étrangers qui soient formés avec toute la culture chaldéenne. Bon. Et il y a toute une histoire extraordinaire. Ces trois jeunes étaient des hommes de Dieu et ils n'ont pas voulu se contaminer avec les erreurs des Chaldéens. Et donc Daniel, qui était leur tête, si vous voulez, a dit à la personne qui s'occupait d'eux, écoutez, laissez-nous, nous on ne veut pas se contaminer avec la nourriture des Chaldéens, laissez-nous manger uniquement des légumes et de l'eau, c'est tout. Alors l'eunuque qui s'occupait d'eux a eu peur en disant, mais vous allez maigrir, devenir mec comme des clous, et du coup, on va me couper la tête. Il dit, non, laissez faire les choses pendant 10 jours, vous verrez. Et donc, l'eunuque qui chargé de ces 3 jeunes hommes, donc, les a laissés manger uniquement des légumes. Et au bout de 10 jours, il s'est aperçu que les 3 jeunes qui avaient mangé que des légumes pendant 10 jours avaient une mine resplendissante. Alors, il a laissé faire les choses. Les amateurs de nourriture biologique doivent bien aimer ce passage de Daniel. Mais après, il y a un autre passage qui est extraordinaire. Et un peu plus tard, et c'est à ce passage que je voudrais faire allusion aujourd'hui, un peu plus tard, le roi Balthazar, qui était le fils de Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'est lui qui avait volé et profané tous les objets sacrés qu'il avait volés au temple de Jérusalem. Et Balthazar, qui était donc roi de Chaldée, avait à ce moment-là fait une grande fête, et en utilisant les calices et les vases d'ablution qui avaient été volés par son père à Jérusalem, il avait organisé une orgie gigantesque pour la profanation de toutes ces choses-là. Un banquet énorme pour toute la population. Évidemment, Daniel s'était bien gardé d'y participer. Et en plein milieu de cette orgie, voilà, nous dit le livre de Daniel, qu'une main mystérieuse se met à écrire des mots. Une main mystérieuse apparaît et écrit des mots sur la paroi juste sous le nez du roi. Évidemment, ça lui a coupé l'appétit, c'est moins qu'on puisse dire. Une main bizarre qui se met à écrire, une main toute seule, sans corps, qui a écrit 3 mots bizarres dans une langue inconnue sur la paroi juste devant le nez de la table d'honneur du roi. Alors il appelle vite tous ses devins, tous ses chamans, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Les devins arrivent et ils disent, mais nous ne pouvons pas vous donner d'explication, nous ne savons pas de quelle langue il s'agit. Mais ils ont dit au roi, mais vous savez, les jeunes que vous avez fait venir de Palestine, peut-être que ces jeunes, ils sont très intelligents, peut-être qu'ils connaissent. Et donc il fait venir Daniel et qui lui dit, voilà, si tu peux m'interpréter ces 3 mots, je te couvre d'or. Et Daniel lui a dit, l'or, vous pouvez le garder, je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que je peux parfaitement lire ces 3 mots, parce que c'est écrit dans ma langue. C'est écrit en caractère hébraïque. Mané, Tessel, Phares. Mané, tu as été compté. Tessel, tu as été pesé. Phares, tu as été trouvé manquant, tu seras divisé. Et le soir même, il y a une révolte de palais, les Mèdes ont envahi la Chaldée, et le roi a été tué. Eh bien, si la Sainte Église demande justement en ce moment-là, on a commencé à ce dimanche, l'Église demande aux prêtres de lire et méditer sur le livre de Daniel, c'est justement pour cela. Parce que, mes bien chers frères, nous aussi, il faut qu'on nous pose cette même question. Un jour, le bon Dieu nous apparaîtra le jour de notre mort, le jour de notre jugement particulier, et il mettra notre âme dans la balance. Et nous serons comptés, nous serons pesés, et si nous sommes trouvés manquants, nous serons divisés, mes bien chers frères. Ça veut dire quoi, divisés? Divisés, c'est la séparation justement entre le corps et l'âme, c'est ça qui est représenté par cette division. Séparation entre le corps et l'âme, et si je suis divisé dans l'état de péché mortel, malheureusement, je ne pourrai jamais voir Dieu, ce sera l'enfer. Alors posons-nous la question, mes bien chers frères, si je mourrais demain matin, ou si je mourrais cet après-midi, est-ce que si le bon Dieu compte mes bonnes actions, qu'il va en trouver suffisamment? S'il pèse mes bonnes actions, est-ce qu'elles seront suffisamment lourdes pour contrebalancer toutes mes bêtises, tous mes péchés? Est-ce que je vais être divisé ou est-ce qu'au contraire, je vais être gardé dans mon intégrité pour pouvoir un jour jouer de Dieu au ciel pendant toute l'éternité? Posons-nous cette question. Ah, bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre, vous voyez, il faut réaliser à quel point le laïcisme ambiant dans lequel nous devons vivre, nous sommes obligés de vivre malheureusement, est un blasphème épouvantable. Il n'y a pas de plus grand blasphème dans le monde moderne que le laïcisme moderne. C'est le peuple juif qui hurle, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Que son sang retombe sur nos têtes et la tête de nos enfants. C'est ça qu'on dit à chaque fois qu'on refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le laïcisme ne nous fait aucune illusion, c'est rien d'autre que le refus catégorique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça gêne personne. C'est là où on montre l'hypocrisie de ce laïcisme. Le même gouvernement qui lutte constamment contre l'Église catholique n'est absolument pas gêné d'avoir des pays officiellement musulmans. Essayez de construire une église en Arabie Saoudite. Vous allez voir ce qui va vous tomber dessus. Essayez de construire une église. Il y a des pays qui sont officiellement musulmans, il y a des pays qui sont officiellement bouddhistes, il y a des pays qui sont officiellement protestants, il y a des pays qui sont officiellement marxistes. Ça, ça gêne personne. Mais dès qu'on parle de pays officiellement catholiques, ah non. Si c'est Martin Luther qui dirige, ça va. Si c'est Bouddha qui dirige, ça va. Si c'est Mahomet qui dirige, ça va. Mais pas notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le blasphème, mes chers frères. C'est mettre, en fin de compte, les faux dieux en égalité avec le vrai Dieu. Vous voyez ? Donc il faut vraiment demander à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Voilà pourquoi il faut étudier la doctrine. Combien de fois, quand j'expliquais ces choses-là, des gens sont venus me voir en me disant, « Monsieur l'abbé, on ne nous a jamais expliqué ces choses-là. » Je me rappelle cette dame, c'est une fois à la retraite avec moi, qui m'a dit à la fin de la retraite, « Monsieur l'abbé, j'ai plus appris en 5 jours de retraite que pendant 20 ans dans l'Église moderne. » Plus appris en 5 jours de retraite qu'en 20 ans dans l'Église moderne. Elle a commencé à ouvrir le magistère de l'Église. Elle a commencé à découvrir à ce moment-là, et j'ai eu plusieurs cas comme ça, découvrir le magistère de l'Église, ils sont allés voir leur curé, ces gens-là, avec ce texte. Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ces choses-là? Pourquoi avez-vous caché ces vérités essentielles? Oh, on n'est plus au Moyen-Âge. Voilà la réponse. On n'est plus au Moyen-Âge. Je vous assure qu'ils ont vite claqué la porte, ils ont compris. Il ne faut plus leur demander maintenant de ne plus voir ces différences énormes. Donc demandez, mes bien chers frères, demandons, c'est valable pour moi aussi, demandons tous la grâce de conserver la foi. Même si nous avons fait, dans le passé, commis des erreurs, des péchés, moi le premier, on est tous pécheurs, le bon Dieu est prêt à nous pardonner à condition qu'on regrette. Si nous nous rendons compte que nous sommes égarés en matière de doctrine, parce qu'on a commencé à croire en des doctrines fausses, ayons le courage de reconnaître, mon Dieu, je me suis trompé, j'ai suivi toutes ces fausses erreurs, ces idées de laïcisme, d'écuménisme, de liberté de conscience, de collégialité, et je me rends compte maintenant à quel point ces erreurs s'opposent contradictoirement à tout l'enseignement traditionnel de l'Église. Quand vous êtes sur un chemin, vous vous rendez compte que vous avez pris un mauvais chemin qui va droit au précipice, qu'est-ce que vous faites? On fait demi-tour, on reconnaît avec humilité qu'on s'est trompé, on fait demi-tour pour revenir. Malheur à ceux qui se rendent compte qu'ils se sont trompés, qui refusent de faire demi-tour. C'est pas facile de faire demi-tour. Surtout quand on a une famille. Surtout quand on a une famille, un père de famille est obligé de dire, ben voilà, pendant 20 ans on est allé à l'église moderne, on se rendait pas compte, on n'était pas au courant. Maintenant on est au courant. Encore une fois, cet enseignement, mes chers frères, c'est pas l'enseignement de l'abbé Lafitte, il n'y en a pas. J'ai pas d'enseignement personnel. On reprend le magistère de l'Église, tout a été dit, tout est dans le magistère de l'Église. Voilà ce qu'a enseigné l'Église catholique. L'Église catholique est une, sainte, catholique et apostolique, et le sera jusqu'à la fin des temps. Les forces du mal ne prévendront point contre mon Église. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes chers frères, les lumières dont nous avons besoin, on a bien besoin de ces lumières, surtout aujourd'hui. Demandez à la très sainte Vierge Marie de vous aider à comprendre ces choses-là. Et pas simplement à les comprendre de façon intellectuelle, à les comprendre dans la pratique, vivre selon le magistère de l'Église. Donc penser tel que l'Église a toujours pensé, agir tel que l'Église catholique a toujours agi, transmettre à nos enfants ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Parce que cet enseignement ne nous appartient pas. N'oubliez pas qu'un jour, vous et moi, nous allons tous mourir et nous allons devoir apparaître devant le bon Dieu qui va nous demander « Qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné ? Rends compte de ta gestion. » Et à ce moment-là, on sera mis dans la balance. Encore une fois, reprenez l'exemple magnifique du prophète Daniel. Mané tesel phares. Tu as été compté, tu as été pesé, tu as été trouvé manquant et divisé. Alors prions le bon Dieu que lorsque l'archange Saint-Michel viendra apaiser notre âme devant le bon Dieu, nous soyons trouvés suffisamment lourds pour pouvoir un jour posséder avec la grâce du bon Dieu le bonheur du ciel et jouir de la présence de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.